si elle aimait pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, mon invité est Stéphanie Dotto. Bonjour Stéphanie. Stéphanie, vous êtes née le 23 septembre 1978 à Toulouse. Vous avez grandi entre Lavernoz-la-Casse, où vos parents ont fait construire, et Saint-Hilaire à 3 km, le quartier général de votre famille italienne, où vivaient vos grands-parents et où votre père avait son exploitation agricole. Vous avez un parcours très atypique, intéressant. Vous êtes une de ces personnes qu'il convient de faire découvrir. Commençons par cette enfance agricole, comme vous m'avez dit. En effet, vous m'avez indiqué en préparant l'émission, souhaiter cette enfance magnifique à tous les enfants de la Terre. Racontez-nous cette enfance magnifique.
Alors oui, je la souhaite à tous les enfants de la Terre parce que je suis née, comme je vous l'ai écrit, entre les champs de maïs, les champs de blé et les animaux de la ferme. Et que j'ai grandi dans un cadre où la famille était très importante. On est des Italiens, il ne faut pas l'oublier.
Vous êtes fille unique.
Je suis fille unique, mais les repas de famille du dimanche, c'était 20 personnes. Donc c'était les oncles, les cousins, toute la famille. Et c'était un dimanche où on faisait des jeux de cartes. Les Italiens jouent beaucoup aux cartes, à la pétanque aussi. Et donc on passait un dimanche très agréable. Et le cadre familial et la structure familiale chez les Italiens, c'est quelque chose de hyper important. Et donc, l'enfance que j'ai eue, ça a été une enfance où on m'a appris des valeurs de la terre, le respect de la terre déjà, le respect de ceux qui habitent la terre, on va dire. Et voilà, donc cette enfance-là, c'est pour ça que je la souhaite à tout le monde. Malheureusement, je pense que les enfants qui naissent en ville n'ont pas accès à ce cadre-là, et ça, c'est dommage.
Ils ont accès à d'autres
Ils
choses.
Ils ont accès à d'autres choses.
Vous n'avez sûr. Pas souffert d'être enfant unique ?
J'ai pas souffert d'être enfant unique parce que je ne m'ennuie jamais.
Alors, qu'est-ce que vous avez reçu comme cadeau à l'âge de 9 ans ?
Un cheval. Ça faisait déjà... je pense que j'ai su... À peu près, quand j'ai su marcher, j'ai su monter à cheval. Je veux dire, c'est venu à peu près en pas de deux, quoi. Et donc, à 9 ans, j'ai eu un cheval. Mon oncle m'a offert un cheval, Panjim. C'était un pur sang. Et donc, c'était... pour moi, ça a été le plus beau cadeau de ma vie, quoi. À cette époque-là, c'était...
Il était tout jeune.
Il était tout jeune, il avait 9 ou 10 mois.
Ah oui, effectivement, il vous a agrandi.
Donc on a grandi ensemble.
On a grandi ensemble, oui, excusez-moi. Et alors, comment se passe, j'imagine, quand on reçoit un tel présent pour son anniversaire, j'imagine que vous n'aviez que lui en tête les premiers mois, les premières années. Vous l'avez dressé, je suppose, il vous a accompagné. Vous n'en avez pas oublié vos amitiés d'enfance ?
Non. Alors, ce qui est rigolo, c'est que de temps en temps, je mets des images souvenirs comme ça sur Facebook. Et mes anciennes copines de l'époque, en fait, mettent toutes des messages, la belle époque, quoi. En gros, ils se souviennent tous de mes grands-parents, ils se souviennent tous des balades qu'on faisait avec mon cheval, ils se souviennent tous des moments qui sont venus passer à la ferme chez nous. Tous mes amis, mes amis de cette époque-là s'en souviennent.
Quand on a une enfance protégée comme ça, est-ce qu'on est armé après pour affronter la vie ?
Alors, on est armé, oui et non, puisqu'après, quand je suis passée à l'étape du collège, ça a été compliqué pour moi. Mais par contre, on est armé pour le travail, parce que le travail, ça fait partie des valeurs qu'on nous apprend. Donc ça, je pense que je n'ai jamais eu de problème pour m'intégrer dans un travail, et surtout pour le faire à fond, quoi.
Alors, vous m'avez indiqué, quand on a préparé l'émission, que vous avez souffert justement de ce passage de la primaire au collège, parce que vous étiez donc dans une petite structure, vous êtes passé dans un établissement important. Vous avez perdu vos repères. Pourquoi cette souffrance à ce moment-là ?
Alors, j'ai perdu mes repères. En fait, quand je suis arrivée au collège, c'est vrai que voilà, je suis passée de 75 élèves à 800. En gros, c'était quand même un choc, quoi. Et c'était un choc parce que j'arrivais dans une structure, en fait, personne ne me connaissait. On n'était pas des numéros, mais un peu, quoi, en fait.
Vous étiez demi-pensionnaire ?
J'étais demi-pensionnaire et notre petite école à La Vernoz, bon maintenant qui n'est plus une petite école aujourd'hui à La Vernoz, mais à cette époque-là, c'était une famille un peu notre école. On avait notre cantinière qui nous connaissait, qui connaissait les petits plats qu'on aimait, qui nous
c'était
faisait.
Familial. Nos,
c'était très familial, voilà. Donc, et là, je suis passée d'un coup à l'usine, quoi, en fait. Hein. Ça m'a un petit peu choquée, ça, ouais.
Alors, vous vous investissez au collège ?
Alors, je m'investis parce qu'à partir de la cinquième, je deviens présidente d'un club vidéo qui était dirigé par un prof de sport, je m'en souviens, Monsieur Quesada. Et donc, avec une amie, on décide de s'investir dans ce club vidéo et on décide en fait de faire un journal télévisé pour les élèves du collège. Alors, c'était un journal qui paraissait deux, trois fois par semaine, ça dépendait.
Télévisé.
Télévisé. C'est-à-dire qu'on avait installé une télé dans la cour de récréation, qui était au niveau de la vie scolaire. Il y avait une petite enceinte. Et là, on donnait des news, on faisait des petits reportages, on allait faire un peu des micro-trottoirs de temps en temps, ça nous permettait de sortir un peu. On faisait des...
Vous deviez être très populaire. Hein.
Alors du coup, oui. Du coup, en fait, j'ai regagné ma petite notoriété de l'école. Je l'ai regagnée comme ça au collège.
C'était important pour vous ?
C'était important. Et puis surtout, je me suis remise à créer, en fait. Et ça, c'était super important. Parce qu'à l'école primaire, avec une de mes petites copines, on avait fait une petite troupe de spectacle, de théâtre, en fait. On faisait des petits sketchs, on faisait des petites acrobaties aussi, parce qu'à l'époque, on faisait de la gym et de la danse. Et là, on a recréé un petit peu, pas tout à fait de la même façon, mais on a recréé de nouveau... un lieu de création, en fait, justement.
Alors, on le verra tout au long de l'émission. Effectivement, cette fibre artistique, parce que vous avez vraiment la fibre artistique, vous l'avez fait ressortir dès votre plus jeune âge, sous différentes formes, et elle continue d'ailleurs à vous accompagner aujourd'hui, on le verra. Alors, ces années de collège passent, vous restez dans votre club de vidéo jusqu'à la troisième.
Voilà.
Et après, vous partez au lycée ?
Et après, je pars au lycée. Et donc,
à Toulouse ?
Non, à Muret.
À Muret, d'accord.
Et donc, je pars au lycée. Et puis, bon, la seconde, c'est vrai, j'ai pas tant de souvenirs que ça de la seconde. Pourtant, j'étais très pressée de partir au lycée. Parce que pour moi, le lycée, c'était une porte ouverte sur la liberté. Et in fine, j'ai pas tant de souvenirs que ça de la seconde.
Vous étiez bonne élève au collège et à cette entrée au lycée ?
Moyenne.
Moyenne ?
J'étais moyenne. J'aurais pu être meilleure si j'avais forcé un peu plus, on va dire. Mais je faisais le service minimum, en fait. Je me débrouillais.
Pour passer classe en classe.
Voilà.
Alors, on l'a vu, vous avez grandi au milieu des animaux. Vous aviez votre compagnon...
Panjim.
Voilà, Panjim, qui vous a été offert pour vos 9 ans. Vous avez donc créé ce club vidéo que vous avez abandonné, entre guillemets, quand vous êtes rentré en seconde.
Alors... avec ma copine Laure, on a abandonné du coup quand on est rentré en seconde. Par contre, ça a tellement bien marché, ça a tellement plu que dans le collège où nous étions, c'est devenu une section, la vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des élèves maintenant au collège Louisa Paulin qui ont une section vidéo. C'est devenu vraiment une matière à part entière.
Donc, on peut dire que ça a été un petit peu créé grâce à vous.
Voilà, il y a une continuité.
Et alors, vous faites vos 3 ans de lycée ?
Alors, je fais en fait 4 ans de lycée, puisqu'en première, on me met dans une classe que j'aimais pas du tout, c'était la gestion.
Donc pour faire un bac G.
Voilà, un bac, à l'époque, ça s'appelait sciences et techniques du tertiaire, option gestion. Et moi, les chiffres et moi, ça fait deux, quoi. Donc, j'aime pas du tout, ça me plaît pas. C'est...
Vous n'avez pas eu votre mot à dire ?
Comment ça se... J'ai pas eu de mon mot à dire. On m'a mis là, point barre, on m'a pas demandé. Et donc, au bout de 2-3 mois, en parlant poliment, j'ai pété les plombs, quoi, et j'ai arrêté. J'ai arrêté et...
Donc vous avez décidé d'arrêter l'école.
J'ai arrêté l'école.
Vous aviez quel âge ?
Je vais avoir 16 ans. Hein,
et quelle a été la réaction de vos parents ?
Mes parents, ils se sont beaucoup inquiétés. Ils se sont dit, elle ne va jamais reprendre, ce n'est pas possible. Surtout que le CPE de l'école, du lycée, avait dit que, bon, en gros, j'étais un peu une ratée, quoi. Et donc, en étant une ratée, très psychologue, oui. Et j'étais sortie du milieu scolaire, et donc, je ne pourrais jamais y revenir, quoi. Ce n'était pas du tout, c'était pas possible.
Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous arrêtez un an, c'est ça ?
Alors, je m'arrête un an, voilà. Dans les faits, pas tout à fait un an, finalement, c'est 8-9 mois où j'élève des chevaux et je me dis que...
Où ça, quel endroit ?
À Muret, j'étais. Oui. Et donc, je me dis que bon...
Là, vous étiez dans votre élément.
Voilà, je suis dans mon élément, mais c'est quand même dur et je me dis que quand même, il me manque quelque chose. Je ne peux pas m'arrêter là. Et il faut que j'ai quand même un minimum de bagage scolaire. Donc, je décide de reprendre l'école, de revenir en première, mais à mes conditions à moi, c'est-à-dire de revenir dans une filiale. Alors, pas sur une filiale générale, parce que ce n'est pas possible, quand on a arrêté un an, de revenir sur une filiale générale. Mais donc, je suis repartie sur un bac technique, une première technique, et une première qui correspondait un petit peu plus à ce que j'aimais, c'est-à-dire c'était l'action commerciale. Bon, déjà, c'était pas pareil. C'était pas de la gestion. On était confrontés au milieu professionnel. On faisait du droit, on faisait de l'économie aussi. Mais
avec voilà, une ouverture qui vous convenait mieux.
Une ouverture qui me convenait mieux, quoi. Et puis, on avait un projet à monter sur l'année de terminale. Et ce projet-là, pour moi, ça a été d'organiser un défilé de mode pour les restaurants du cœur. Et du coup, j'étais plus dans quelque chose qui me correspondait.
Oui, parce que vous avez ce besoin de créer, effectivement. Oui, en gestion, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de création possible.
En gestion, on ne crée pas.
Oui, oui, d'accord. Donc, vous arrivez au bac. Mm-hmm. Vous avez votre bac.
Avec mention.
Donc,
merci le CPE.
On peut faire un clin d'œil à votre CPE, effectivement. Il l'a su.
Et probablement, mais bon, après, il était encore là, de toute façon, quand j'ai eu mon bac. Donc,
oui, parce que vous étiez revenu quand même dans le même établissement.
Ah, dans le même établissement, oui.
D'accord. Oui. OK. Et tout de suite après votre bac, qu'est-ce que vous faites, Stéphanie ?
Et tout de suite après mon bac, je fais ma première année à la fac de psycho.
Oui, à Toulouse.
À Toulouse.
Comment ça se passe ? Vous prenez un appartement ?
Alors, je prends un appartement.
Donc là, c'est le début de votre vie de jeune femme.
C'est surtout mes parents qui prennent un appartement pour moi.
Oui, j'imagine, bien sûr.
Et donc, c'est un peu le début de la liberté, si ce n'est qu'en plus, c'était une année où il y avait quand même pas mal de grèves, donc c'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas ce que je veux faire quand même. Hein. Pendant cette année-là, j'ai envoyé mes dossiers dans différents lycées qui proposaient des BTS production audiovisuelle et spectacle vivant. Et donc, j'ai été prise au lycée de la Roche-sur-Yon.
Voilà. Donc, vous quittez Toulouse ?
Alors, je ne quitte pas Toulouse, en fait. Dans les faits, je ne quitte pas Toulouse parce que, comme toutes les jeunes filles de mon âge, je tombe amoureuse. Et voilà. Et là, c'est le bordel, entre guillemets, puisque je décide, du coup, de ne pas aller dans le lycée, là où j'ai été prise. Donc, je décide de rester suite à la demande de mon...
Copain de l'époque.
Je décide de rester donc sur Toulouse. Et comme lui était exploitant agricole, je reviens tranquillement aux sources, c'est-à-dire à l'agriculture, les céréales et surtout l'élevage. Du coup, là, pour le coup, je me relance vraiment dans l'élevage de chevaux. Mais ce coup-ci, vraiment, de chevaux destinés au spectacle. C'est-à-dire que j'élevais des chevaux espagnols, des chevaux portugais, que je dressais pour des gens qui faisaient du spectacle. Je ne faisais pas du spectacle, je dressais pour des tiers à ce moment-là.
Vous l'avez fait combien de temps, ça ?
Une dizaine d'années, jusqu'à presque 29 ans, quoi.
D'accord, ok. Et vous continuez d'être accompagnée de votre cheval ?
Alors, j'ai continué à être accompagnée de mon cheval jusqu'à l'âge de 24 ans. Et malheureusement, mon cheval donc, est mort quand j'avais 24 ans. Et donc là, ça a été...
Un choc, j'imagine.
Oui, une grosse déchirure, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'était mon enfance qui s'envolait. Hein. C'était mon premier cheval et qui m'a accompagnée dans toutes mes péripéties. Et chaque fois que je déménageais, mon cheval me suivait. Hein. Donc, on a vécu vraiment une grande histoire, tous les deux.
C'était fusionnel.
Oui, vraiment.
Et alors, pendant cette dizaine d'années où vous avez élevé des chevaux, ça correspondait un petit peu à ce que vous aviez vécu enfant. Donc, j'imagine que c'était des années heureuses.
Ah oui, oui. Après, oui. J'étais heureuse au milieu de mes chevaux. Après, le seul petit point noir de l'histoire, ça a été que c'est une profession à laquelle on vit quand même vraiment pas correctement. Quoi.
C'est très difficile.
C'est difficile. C'est difficile, à une époque où le cheval se vend pas forcément. Quand il n'est pas vendu pour un spectacle, automatiquement, il est vendu pour du loisir. Et à l'époque, à l'heure actuelle, le loisir, on met pas autant d'argent dans le loisir que dans des choses importantes à la vie de tous les jours, quoi.
Alors, dresser des chevaux, comment ça se passe ? C'est quelque chose d'inné ? Vous n'avez pas été à l'école pour apprendre ça ?
Alors non, j'ai pas été à l'école. Par contre, j'ai côtoyé beaucoup de dresseurs et de dresseurs dans des domaines très différents. C'est-à-dire que j'ai côtoyé des dresseurs de chevaux de course, j'ai côtoyé des dresseurs de chevaux de spectacle, j'ai côtoyé des dresseurs d'attelage. J'ai côtoyé plein de dresseurs. Et du coup, j'ai pris un petit peu dans toutes les techniques des petits éléments pour faire ma propre technique à moi, quoi.
Vous avez jamais eu envie d'en faire un livre, justement, avec vos techniques de dressage ?
Je ne sais pas si j'ai assez de techniques pour faire un livre. Ça, jusque-là, je ne me suis pas posé la question, à vrai dire.
Oui. Comment ça se passe ? On reviendra sur le fait que vous habitez à Toulouse actuellement, mais j'imagine que quand on est comme vous, né avec et pour le cheval, comment vous faites à Toulouse ? Vous montez dans un club, vous partez tous les week-ends à la campagne, comment ça se passe ?
Alors là, malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un petit accident en 2014 et donc j'ai eu deux vertèbres de cassées. Et pour moi, là, c'est très compliqué de faire du cheval. Je me fais très vite mal, en fait.
Donc, c'est resté douloureux.
Voilà. Donc là, ça fait à peu près 5 ans que je ne suis pas montée à cheval. Et quand je monte,
ça doit être un manque affreux pour vous.
Alors c'est un manque, c'est un très gros manque. Et quand je monte, il faut vraiment que... D'abord, il faut
faire
que ça
attention.
Soit sur des chevaux très confortables. Et puis, c'est fini les acrobaties que je faisais, quoi. Parce qu'il faut dire que quand même, la cascade, la voltige cosaque et puis le spectacle... On prend quand même de bonnes gamelles qui laissent des traces quand même. C'est pas anodin, quoi.
Oui, bien sûr. Stéphanie, je vous propose tout de suite un premier choix musical. Et alors, vous avez choisi Bella Ciao, Tarantella. On écoute et on parlera de cette chanson tout de suite après.
Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morir. Io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire. che passeranno. Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior.
Vous êtes toujours dans l'émission Ainsi va la vie, avec aujourd'hui comme invité Stéphanie Dotto. Alors Stéphanie, pourquoi ce choix? Parce que c'est quand même un choix de chanson très engagé et qui a eu de multiples reprises.
Alors c'est pour deux raisons. C'est un choix, pour une raison, la première, c'est un choix très engagé, c'est vrai. Et ensuite, quand j'entends cette chanson, je pense à mes grands-parents. J'ai perdu mon grand-père en 2002 et ma grand-mère en 2009. Et c'est une chanson qu'il chantait, surtout mon grand-père. Mon grand-père chantait beaucoup, il m'a initiée à... Grâce à lui, j'ai découvert l'opéra, par exemple. Et je trouve que même faire découvrir l'opéra à des enfants, c'est une bonne chose. Et cette chanson, c'est une chanson, je l'entendais souvent la fredonner. Et ensuite, notre famille est arrivée en France parce que mes grands-parents ont, en Italie, lutté contre Mussolini. Et par rapport à eux, je garde cet esprit. Je ne l'oublie pas. Je n'oublie pas pourquoi ils ont combattu, contre quoi ils ont combattu. Et pourquoi ils sont arrivés ici, et ensuite que ça n'a pas non plus été facile quand ils sont arrivés, c'était pas simple du tout. Et voilà, donc cette chanson c'est pour leur rendre hommage.
Votre maman était française, hein.
Alors ma maman elle est à moitié italienne.
D'accord, donc vous êtes à trois quarts italienne.
Voilà, trois quarts italienne.
Chez vous, vous parliez italien enfant ?
Alors, mes grands-parents, quand mon père et mon oncle sont nés, parlaient en italien entre eux. Par contre, avec les enfants, on parlait toujours en français. Et ça, c'était quelque chose qui était plus pour leur intégration. On parlait pas... c'était les vieux qui parlaient en italien. Et avec les jeunes, on parlait tout le temps en français.
Mais j'imagine que vous êtes parfaitement bilingue. Hein.
Alors, parfaitement, non, je n'irai pas jusque-là. Il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je sais dire. Et puis, mes grands-parents parlaient le dialecte vénitien. Donc, c'est un petit peu différent de l'italien traditionnel, on va dire.
Ils vous ont amené eux-mêmes en Italie ?
Non, j'y suis allée toute seule, en fait.
D'accord, c'est un pays que vous aimez ?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Vous le considérez que c'est votre deuxième patrie ?
Oui, oui. Par exemple, quand il y a un match de foot, je suis pour l'Italie.
D'accord. Alors, je ne vous ai pas demandé en première partie d'émission, mais vous avez grandi donc dans ce milieu agricole, entouré d'animaux. Vous avez expliqué que dans les 10 premières années de votre vie de jeune femme, même si vous n'avez pas encore 40 ans, vous êtes toujours une jeune femme. Vous avez été une fois de plus au milieu des animaux, et là en l'occurrence des chevaux. Mais quand vous étiez une petite fille, vous aviez quoi comme envie de métier ? Vous rêviez de quoi ?
Alors quand j'étais petite, je voulais être clown ou médecin légiste. Donc,
c'est-à-dire que c'est diamétralement opposé, effectivement.
Donc clown, je pense que ça correspondait vraiment à ce que je faisais tous les jours. C'était mon quotidien.
D'une nature joyeuse.
Voilà, j'ai toujours adoré me déguiser. J'ai toujours eu des activités où on se déguise. Donc je pense que voilà. Ma mère avait quelques réserves à l'égard du clown, hein, puisque ma mère travaillait à l'usine. Et je pense que bon, ça lui faisait un petit peu peur. Elle m'avait mise en garde que je finisse pas moi aussi dans une usine.
Donc il fallait avoir un vrai métier, c'est ça ?
Voilà, elle m'a dit, il vaut mieux que tu songes à un vrai métier, parce que si tu veux pas finir à l'usine comme moi, quoi. En gros, c'était ça. Et puis, médecin légiste, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que la justice, c'est très important pour moi. Et je trouve que les médecins légistes, ben, ça me passionnait, c'était ceux qui faisaient parler les morts, c'était ceux qui étaient, qui faisaient éclater la vérité, en fait. Et je trouve pas du tout ça ni...
Pas morbide.
Je trouve pas du tout ça morbide, en fait. Les professions qui se rapportent à la mort, pour moi, c'est pas du tout sinistre. Pour moi, c'est plutôt des gens qui sont à l'écoute des autres et qui ont beaucoup d'empathie, en fait.
C'est drôle que vous n'ayez pas eu envie, en plus, là, même il y a beaucoup de petites filles même qui naissent en ville et qui ont envie d'être vétérinaires.
Ma grand-mère voulait que je sois vétérinaire.
Et ça, ce n'est pas un métier qui vous a attiré ?
Eh bien, en fait, bizarrement, non. Ça ne m'a pas attiré vétérinaire. Ma grand-mère voulait que je sois vétérinaire parce qu'avant, les anciens pensaient qu'il fallait être plus intelligent pour être vétérinaire que pour être médecin, parce que les animaux ne parlaient pas. Donc, c'était plus compliqué d'être vétérinaire. Bon. En fait, c'est pas vrai, mais voilà, ma grand-mère, elle aurait... Je pense qu'ils ont tellement connu la misère qu'ils voulaient vraiment que j'aie une profession où j'ai pas peur du lendemain, quoi. Voilà. Franchement, où j'ai mon compte en banque qui soit vraiment bien et pas de problème pour acheter à manger.
Alors, revenons donc à ce début de vie de jeune femme. Pendant cette dizaine d'années, vous élevez des chevaux. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cet arrêt ?
Eh bien, pour des raisons purement financières, on va dire, on ne gagne pas sa vie avec ce métier. Donc, je décide à ce moment-là de repartir sur les bancs de l'école.
Ce qui est courageux, puisque vous aviez pratiquement 30 ans.
Voilà. Donc, je suis repartie dans une école qui s'appelle l'IFSA.
Ça, c'était en quelle année ?
2006-2007.
D'accord.
Donc, c'est l'Institut de formation en soins animaliers. C'est une formation d'assistante vétérinaire qui m'a donné donc l'occasion de faire des stages dans des zoos, puisque je me suis de suite orientée vers les parcs zoologiques qui proposaient des spectacles, en fait.
Toujours cette envie de création, de spectacle, de donner du plaisir aux gens.
Voilà. Donc, ça n'a pas changé. J'ai fini ma formation, j'ai fait mes stages et puis j'ai été embauchée donc dans des parcs zoologiques dans lesquels il y avait des spectacles. Et là, j'ai été formée surtout par des gens qui étaient des dresseurs de mammifères marins et des dresseurs d'oiseaux.
Mais ce sont des stages. Mais après, vous avez été embauchée.
Et après, j'ai été embauchée, voilà.
Dans quel zoo ?
À Plaisance, à African Safari.
D'accord. Et c'est à Plaisance que vous avez organisé des spectacles ?
Voilà. Et à Plaisance, donc, ensuite, j'ai géré le secteur oiseaux et ensuite Otari.
Otari. Je vous regarde avec des grands yeux écarquillés parce que, oui, c'est sympa, une Otari, ça se dresse facilement, ça vous raconte sa vie, comment ça se passe ? Comment vit-on au quotidien avec une Otari ?
Avec une Otari, on vit déjà sans tricher. Parce que ce ne sont pas des animaux auxquels on peut mentir. Et les mammifères marins, ça n'a rien à voir avec les chevaux. C'est un dressage qui est totalement différent. C'est un dressage qui va être... D'abord, on travaille avec ce qu'on appelle du conditionnement opérant. Chez les humains, c'est ce qui a donné naissance à la thérapie comportementale. C'est Skinner qui a créé ça. Donc on ne travaille pas avec les mêmes techniques. Les otaries et les dauphins aussi, puisque j'ai eu l'occasion de fréquenter les dauphins, sont des animaux qui sont hyper intelligents. Et ça me fait mal au cœur parce que j'adore les chevaux, mais ça n'a rien à voir. Les mammifères marins ont une intelligence qui va plus se rapprocher de l'intelligence humaine
que les chevaux.
Que les chevaux. Voilà. Mais de tous les herbivores en général, hein, les herbivores sont quand même beaucoup moins intelligents que les carnivores, hein, enfin que les carnivores sur mammifères marins. Quoi.
Comment ça se passe quand on fait le dressage de mammifères marins ? Vous deviez être souvent dans l'eau avec eux ?
Alors, pas forcément. L'avantage des otaries, c'est qu'elles sont amphibies. Donc, oui, en fait, oui, on leur apprend à peu près autant de comportements sur Terre que dans l'eau. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, par exemple, avec un dauphin, on n'a que des comportements aquatiques et on n'a pas de comportement terrestre. Donc, l'otarie est capable de faire des tas de choses en version terrestre, danser, par exemple. Voilà.
Comment ça se passe ? Vous avez été embauché donc pour mettre au point, dans ce zoo, pour mettre au point des spectacles avec ces animaux. Donc vous vous occupez d'un côté du dressage et de l'autre côté de mettre au point un numéro, c'est ça ?
Oui.
Alors, ça doit être un boulot énorme.
Alors c'est énorme, c'est des heures et des heures de travail parce que les animaux, quand on a des animaux en spectacle à ce niveau-là. On vit avec elles, avec les otaries par exemple, quasiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quand moi je suis de repos, par exemple, si moi je sais que, par exemple, j'avais une otarie, Daisy, quand j'étais en vacances, elle arrêtait de manger.
D'accord.
C'est un gros problème. Et donc, on était tellement en fusion. Qu'il pouvait se produire des problèmes comme ça, il pouvait survenir des problèmes comme ça. Et donc, il faut être capable de réagir très, très vite. Et j'étais jamais très loin de mes animaux, en fait. Hein, donc.
Justement, Stéphanie, vous avez passé une grande partie de votre vie en compagnie d'animaux. Donc, on a dit les 10 premières années de votre vie de femme avec des chevaux. Après, avec les otaries, les dauphins, les oiseaux, vous m'avez dit également. Ça ne vous a pas mis à la marge des êtres humains ?
Non, puisque les spectacles, ça reste quand même un rassemblement d'êtres humains. après, j'ai toujours...
Dans vos rapports, vous, après, parce que vous étiez, comme vous le dites, pratiquement 24 heures sur 24, quand vous parliez de Daisy tout à l'heure, avec elle... comment ça se passe ? J'essaye d'imaginer votre comportement à vous, une fois que vous n'êtes plus en compagnie de ces animaux pendant ces années-là, justement.
Alors, on peut se tromper ensuite. Par exemple, l'honnêteté d'un animal n'est pas forcément la même chez l'humain.
Qui est fourbe.
Et malheureusement, on est obligé d'avoir avec les animaux un comportement...
Transparent,
honnête, en face à
cache.
Face, cache. On ne peut pas leur mentir parce que si on les trompe une fois, c'est fini. Le lendemain, ils s'en souviennent et c'est foutu.
Ça a dû vous mettre en souffrance face aux êtres humains ont dû vous tromper, voilà, bien évidemment, tout à chacun. Oui.
Voilà, du coup, dans ce cas-là, oui, c'est sûr que quand je suis revenue dans le monde du travail où il n'y avait que des humains,
vous n'avez pas dû comprendre ce qui vous arrivait là. Là, ce n'était plus les dauphins, c'était le requin, effectivement.
C'est
le requin. Et là, ceux-là, vous n'aviez pas encore appris à les dompter.
Et ceux-là, ce n'est pas dressable, quoi.
Oui. Alors, vous restez combien d'années dans ce zoo à Plaisance du Touche ?
On va dire de mes 30 ans à mes 37.
C'est fatigant ?
Très.
Oui.
Parce qu'on travaille, y a la fatigue du fait de travailler avec des animaux comme ça et d'y être en 24 heures sur 24, mais il y a aussi la pression, parce qu'il faut savoir que dans le zoo dans lequel j'étais, le produit d'appel, c'était quand même le spectacle, et que les gens venaient en priorité pour le spectacle, et que du coup, quand il n'y avait pas de spectacle, ou qu'il manquait un animal, parce qu'il y a des habitués aussi, il y a des abonnés qui viennent tous les week-ends, s'il manque une otarie...
Ah, donc vous êtes obligé de changer le spectacle aussi ?
Alors, de temps en temps, on varie. On a un spectacle pour toute la saison d'été. Ensuite, on faisait des entraînements musicaux en automne. Et ensuite, je préparais un spectacle de Noël, parce que Noël, on recevait tous les arbres de Noël des comités d'entreprise, genre Veolia, Airbus, voilà. Donc, on avait un spectacle pour l'hiver, avec des musiques de Noël, avec... il y avait autre chose l'hiver. Et puis, en même temps où il y avait ces animations d'hiver, moi, je commençais à écrire, à rédiger le scénario, les exercices. Je choisissais les musiques pour la saison suivante d'été. Et généralement, je me calquais sur les événements. Par exemple, s'il y avait les Jeux Olympiques, s'il y avait la Coupe du Monde de rugby, s'il y avait...
Oui, pour choisir les thèmes, des spectacles.
Voilà, on a fait les 30 ans de la fête de la musique, par exemple.
D'accord. Et alors, Les oiseaux, qu'est-ce que c'était comme oiseau ?
Alors, les oiseaux, j'avais des perroquets, j'avais un échassier, j'avais un rapace nocturne, et puis c'est tout.
Bon, alors là, on ne peut pas parler d'intelligence sur ces animaux-là.
Alors, sur les perroquets, oui. Oui. Sur les perroquets, oui, oui.
Donc
oui,
c'est facilement domptable aussi pour préparer un spectacle.
Alors on les dresse tout à fait différemment, ça n'a rien du tout à voir avec avec les mammifères marins. Alors le rapace, par contre, j'avais aussi une buse de harisse. Le rapace, par contre, il vole pour manger. Lui, je veux dire, quand il a pas faim, il vole pas. C'est quand vous les voyez perchés en haut des pylônes et qu'ils ne bougent pas, c'est que soit ils attendent qu'il y ait un petit mulot qui passe en bas, ben soit ils attendent juste parce qu'ils bulent. Hein.
Oui, c'est ils font la sieste, ça. Quoi. C'est la alors, digestion.
Voilà, alors que le perroquet, lui, va voler vraiment parce que c'est un plaisir. Et donc, il faut utiliser ce plaisir. Donc, le perroquet est alors un petit peu comme l'otarie, du coup, pour ça. C'est-à-dire, ça marche beaucoup à l'affectif. Et si il aime beaucoup quelqu'un et qu'il, pendant trop de temps, il ne voit pas ce quelqu'un, il peut aussi se mettre à se piquer les plumes. On a aussi ce genre de comportement sur les perroquets.
Est-ce que chez les dompteurs, c'est comme pour vous, Stéphanie, est-ce qu'ils ont tous plusieurs facettes ? Ce que j'entends par là, c'est que vous avez aussi bien su dompter des chevaux que des mammifères marins, que des oiseaux, tout au cours de ces années. Est-ce que tous les dompteurs sont comme vous à dompter plusieurs espèces ?
Alors, il y a plusieurs... Non. Alors, généralement, les gens qui font les mammifères ne font pas du tout les oiseaux, parce que c'est deux psychologies différentes. Donc, c'est très exceptionnel quand un dresseur d'oiseaux... fait aussi un dresseur de mammifères. C'est plutôt rare.
Oui, parce que c'est deux parties effectivement très
chez
différentes.
Chez les mammifères, par exemple entre les otaries et les dauphins, vous avez des gens qui vont être plus attirés par le dauphin. Le dauphin est beaucoup plus simple à dresser que l'otarie parce qu'il est beaucoup plus joueur, il va beaucoup plus collaborer, alors que l'otarie a une psychologie qui est beaucoup plus compliquée, complexe. Et donc, généralement, les filles vont plutôt vers les dauphins et les hommes vont plutôt vers les otaries. Parce qu'il faut plus de force physique pour dresser une otarie que pour dresser, par exemple, un dauphin qui est dans l'eau. On n'a rien à faire de réellement physique. Quoi.
Ça a dû être compliqué pour vous parce que vous êtes un petit gabarit.
Alors, j'ai travaillé avec des dresseurs. J'ai travaillé notamment avec un dresseur argentin. Au début de notre collaboration, on ne se connaissait pas et la première chose qu'il m'a dite, c'est les filles, c'est pas fait pour dresser les otaries. Donc ça, il me l'a dit en espagnol, il me l'a dit en anglais, il me l'a dit en allemand. Donc j'avais compris.
Très encourageant.
Donc j'avais compris et c'est devenu un de mes meilleurs amis ensuite cet homme-là, parce que quand il m'a vu au travail, et quand on a travaillé ensemble, eh bien, il s'est rendu compte que ça passait super bien avec les otaries.
Stéphanie, je vous propose tout de suite une deuxième pause musicale et votre choix s'est porté sur une magnifique chanson de Gilbert Bécaud, L'indifférence. On écoute et on en parle tout de suite après.
Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire, et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence.
L'indifférence.
Elle a rompu et corrompu même l'enfant. Un homme marche, concret dans la rue. Mais bien personne ne l'a vu. L'indifférence.
L'indifférence.
L'indifférence. Elle te tue à petits coups. L'indifférence. peu de haine, mais quelque chose. L'indifférence, chez toi, tu n'es qu'un inconnu. L'indifférence, tes enfants ne te parlent plus. L'indifférence, tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur causes. Vous aimez, mais vous avez un lit qui danse. Mais elle guette, elle vous guette et joue au chat à la souris. On se viendra qu'elle se lit. Elle te tue à petit coup d'indifférence. Tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand-chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés. L'indifférence, je voudrais la voir crucifiée. L'indifférence, qu'elle serait belle et cartelée. L'indifférence.
C'est pas du tout anodin, cette chanson, ce choix. Alors, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, on l'explique très bien, mais j'aimerais que vous en disiez quelques mots.
Alors, pour moi, c'est une chanson qui est très importante, qui est, je trouve, magnifique. C'est une chanson qui reflète pas mal le monde des humains aussi.
Oui.
J'ai travaillé très longtemps avec des animaux et s'il y a une chose que les animaux ne sont pas à l'égard de leur de la personne qui les nourrit, c'est indifférent.
Ils ont la reconnaissance du ventre, comme voilà. On dit.
Alors que chez l'humain, c'est pas forcément le cas, à commencer des fois dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Il y a la reconnaissance du salaire, c'est vrai, mais il y a aussi la reconnaissance tout court du travail aussi, et d'entendre se dire de temps en temps que ce qu'on fait, c'est bien, quoi. Et déjà, des fois, ça, on l'a même pas.
Oui, j'imagine que vous-même, vous devez faire figure d'ovni dans une entreprise. Alors, avec oui, un tel parcours.
Oui, alors déjà, je suis un ovni dans une entreprise et très longtemps dans le monde finalement touristique, puisque oui, mes spectacles, ça se faisait dans l'univers touristique, c'est quand les gens étaient en vacances. Et dans le monde touristique, on ne peut même pas appeler ça de l'exploitation, quoi. C'est pire que ça. Les salariés, c'est pire que ça. Et puis, encore quand on est dresseur, c'est encore pire étant donné qu'on nous tient avec notre passion, quoi.
Bien sûr.
Évidemment. Et si on nous enlève ça, c'est comme si on nous enlève l'air pour respirer. Donc, voilà.
Donc, vous restez aux eaux de Plaisance du Touche jusqu'en 2014.
Voilà.
Hein ? Et alors là, vous avez donc un accident.
Voilà, j'ai un malaise qui est dû à la fatigue et des années, puisqu'il y a la fatigue des dernières années.
Et comme on a dit, c'est très, très physique.
Voilà, et puis il y avait également la fatigue d'avant, qui était aussi, je pense que depuis l'âge de 15 ans, c'est une course en avant et où je ne me suis jamais arrêtée.
Mais on peut comparer quand même ces métiers, parce que c'est plusieurs métiers en un en plus, hein, puisqu'on a parlé de différentes espèces. On peut presque comparer ça à un sportif de haut niveau.
Oui.
À un moment donné, ça pète.
Voilà.
C'est ce qui s'est passé avec
vous.
Voilà.
Et donc, ben, mon corps a lâché. Hein, à un moment donné, il a crié stop.
Donc, un malaise.
Un malaise. Je fais une chute. Et puis,
dans le zoo
Non, pas dans le zoo. Et du coup, ben, je me brise deux vertèbres. Alors, ça peut paraître rien comme ça.
Oui, c'est sûr. Pas,
mais
c'est une goutte d'eau.
Mais il y a eu. Je pense que c'est un burn-out, en fait.
Voilà,
hein, que j'ai
c'est
fait
ça.
Quand même.
C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Voilà. Parce qu'il n'y avait pas que la chute. La chute est violente, elle fait mal. Mais une fois qu'on s'est remis de la chute.
La chute explique.
La chute psychologique, elle est beaucoup plus grande, par contre. Voilà. Là, j'ai eu 2 ans, mais vraiment très compliqué. Très, très compliqué.
Alors, 2 ans pour. Pour digérer.
Pour digérer.
Pour vous remettre en question.
Voilà, pour digérer déjà aussi
sur,
que
sur ce
je
que vous alliez faire à demain.
Voilà, pour changer de voie, accepter que je ne vois plus mes animaux, puisque ce ne sont pas les miens.
Donc c'était un deuil à faire.
Donc c'est un deuil, voilà. Il n'y a pas un matin où je me lève, où je n'y pense pas. Hein. Par contre, je sais où elles sont. Elles ont été expédiées suite à mon départ en Angleterre.
Voilà, ah, donc là, même si vous allez aujourd'hui au zoo en tant que spectatrice...
Elles n'y sont plus.
Il n'y a plus vos animaux.
Voilà, non. Parce que je pense qu'elles, quand je suis partie, elles ont aussi pété les plombs, en fait.
Oui, parce que vous étiez trop liées.
On était très liés et du coup, personne n'a pu réellement prendre la relève sur ces animaux. Quoi.
Alors, une fois que ces 2 ans de deuil et de rétablissement de vous-même, et physique et psychologique, sont passés, qui est Stéphanie aujourd'hui? Quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous avez mis en place au cours de ces 2 années pour être la jeune femme pétillante que vous êtes aujourd'hui?
Alors, je ne suis pas restée très longtemps, même si j'ai pris du temps pour me retaper, on va dire. Je ne suis pas restée sans rien faire pendant ces 2 ans. Je n'ai pas resté à la maison, ce n'est pas du tout mon genre. J'ai fait un bilan de compétences. Dans ce bilan de compétences, j'y suis entrée en disant à la personne qui était en charge de mon dossier, j'ai dit voilà, je veux devenir chef de projet événementiel.
Ce qui est logique avec tout le début
voilà.
du parcours, bien évidemment.
Et donnez-moi les clés pour y arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles études? Est-ce qu'il a fallu que je fasse une validation des acquis? Il a fallu trouver une école? Il a fallu plein de choses. Donc ça, je l'ai fait en suivant du zoo. J'ai fait une remise à niveau en anglais. Parce que c'était très important dans le domaine de l'événementiel. Moi, l'anglais, il datait du bac. Donc, depuis,
oui, c'était loin.
J'avais plus parlé anglais.
Oui, j'imagine que ce n'est pas avec les otaries que vous parliez anglais.
Alors si, justement, avec mon ami dresseur argentin, on parlait anglais, mais on parlait tous les deux un anglais de la rue. Donc, c'était, c'était notre anglais.
C'était nécessaire à l'entreprise.
C'était notre anglais. Ce n'est pas un anglais technique. Voilà, c'était un anglais qui était typique au dressage des animaux. Et puis après, à la suite de cette formation en anglais, j'ai intégré les CICAD, où ils proposent une formation, la formation OME, dont la maison mère est à Lyon.
Qu'est-ce que c'est OME ?
OME, c'est Organisation et Management de l'événement.
D'accord.
C'est, en fait, nous sommes les étudiants d'OME sont en fait les petits poulains de GL Events. En gros, puisque le grand parrain de la formation, c'est Jacques Danger, qui a créé GL Events. Et donc, c'est pour ça que du coup, je vous dis, le QG de cette formation est à Vienne, en fait, à côté de Lyon. Et puis, et donc, ils ont des petites formations, des antennes. Ils en ont une à Toulouse, une à Strasbourg, une à Marseille, une à Cannes, une à Paris et une en Chine même. Donc, voilà. Et donc, j'ai intégré cette formation sur 1 an. C'était une licence.
Et au bout de cette licence, vous avez trouvé du travail?
Et au bout de cette licence, donc pendant cette licence, j'ai fait un stage à la Dépêche. Et au bout de ce stage, on m'a proposé un CDD qui se termine donc en juin. Donc, on croise les doigts pour le CDI maintenant.
Ah, vous espérez, vous vous y plaisez à la Dépêche?
Alors là, sur le poste sur lequel je suis, je m'y plais. Et
Quel est votre quotidien dans ce poste, justement?
Alors, mon
Stéphanie
quotidien, moi, mon travail, c'est l'organisation. Je suis sur le pôle éco. c'est l'organisation de toutes les soirées événementielles du groupe des Pêches du Midi. Donc j'organise, je suis plus spécifiquement sur l'organisation des trophées de l'économie, le trophée des Septuors. Je travaille aussi en parallèle sur les Oscars du Midi Olympique, mais également sur les trophées associatifs du Tarn et une opération qui date de l'an dernier. On avait fait la première l'année dernière. C'est une opération qui s'appelle Mon Beau Village. Et donc, on récompense des villages.
Oui, donc en fait, vous êtes toujours sur le spectacle, mais plus sur celui des animaux, sur celui des êtres humains.
Voilà.
Physiquement, c'est peut-être moins lourd à porter. Psychologiquement, j'en suis pas sûre.
Alors, psychologiquement, c'est de la pression quand même.
Oui, ça, je suppose. Oui, effectivement. Et alors, à côté de ce... Et je vous souhaite de tout cœur d'obtenir un CDI. Je suppose que... Je suis persuadée que c'est bien parti pour à suivre. Donc, ça finit en juin, le CDD,
oui,
je crois, c'est ça?
Voilà.
Et alors, parallèlement à ça, vous êtes présidente d'une association.
Oui, Option J'aimerais... Chaud.
Oui, et bien justement, vous allez nous parler de cette association, Stéphanie.
Alors, Option Chaud, je suis revenue un petit peu aux sources, puisqu'on a créé cette association à La Vernoz, donc. On va dire, le siège est chez mon père. Et donc, on a créé cette association en famille. Il y a mon conjoint et sa fille. Donc, le bureau, c'est nous trois.
Oui.
Et
quel est le but de cette association?
Alors, le but de cette association, on propose aux adhérents des cours de chant, mais pas que. On les forme aussi sur le scénique, sur les techniques de scène. On forme à la comédie musicale. Donc c'est très complet. C'est-à-dire, on ne leur apprend pas qu'à chanter. On leur apprend à occuper la scène, à occuper l'espace, à danser aussi en chantant, à chanter dans des conditions, par exemple avec un micro-casque, qui n'est pas du tout la même chose qu'un micro-main. Enfin, voilà, c'est très complet.
Vous nous donnez les coordonnées si les auditeurs seraient intéressés pour vous contacter justement pour cette association? Vous
Alors,
nous donnez les coordonnées à l'antenne?
On a un site internet qui est www.optionchaud.com.
D'accord.
Optionchaud.com.
La musique est quelque chose d'important dans votre
vie? La musique, ça, depuis toute petite, ça a toujours été quelque chose d'important.
Vous avez fait vous-même un instrument?
Non, parce que je voulais faire du piano quand j'étais petite et puis malheureusement, c'était trop cher. Donc, je pense que c'est aussi une revanche que je prends aujourd'hui. Et dans cette revanche, je voudrais quand même dire un merci, un grand merci à Ozani, qui est la prof de chant qui intervient sur Option Chaud, qui m'a formée sur le chant aussi.
Ah, donc vous chantez vous-même?
Qui continue aussi à me former, parce que je ne suis pas la calasse, hein. Et la pauvre, des fois, elle galère. Hein. Donc, comme je suis quelqu'un de très nerveux, donc ce n'est pas toujours simple de faire chanter quelqu'un de très tonique.
J'imagine que ça vous canalise quelque part, le chant.
Ouais.
Vous chantez en public?
Oui.
Et alors, on a peut-être des spectacles à venir?
On a un spectacle, on a un concert à l'église de La Vernoz le 9 juin prochain. On accueille les gens à partir de 19h45. Et ce concert a été important pour nous. Alors, autant pour Rosanie que pour moi, c'était important de chanter dans une église, en fait. Et dans l'église de La Vernoz, parce que l'église de La Vernoz, en fait, c'est une très, très vieille église. C'est une église romane qui a été consacrée en 1136. Donc, elle en a vu des époques.
Chargée d'histoire.
Voilà. Ouais. Et donc, les fonds qui vont être récoltés à cette soirée iront à l'association de sauvegarde de l'église.
Alors, on rappelle la date, l'heure et le lieu, Stéphanie?
Alors, c'est le 9 juin à l'église de La Vernoz et on accueille le public à partir de 19h45.
Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Alors, on peut sur le site internet de l'association. On a aussi une page Facebook.
Hein, redonnez les deux, s'il vous plaît.
Alors, la page Facebook, c'est Option Chaud, Option toujours avec un S. Et le site, c'est www.optionchaud.com. Voilà. Et là, il y a la billetterie, on a accès à la billetterie, mais on prend aussi des gens qui n'ont pas réservé, il n'y a pas de souci aussi.
Vous habitez à Toulouse aujourd'hui?
À Saint-Lys.
À Saint-Lys, voilà. Donc c'est pas encore la grosse ville, Saint-Lys.
Non.
Vous n'arrivez pas à être complètement citadine.
Et non. Et puis je pense que mon conjoint et moi-même, on souhaite même aller un petit peu plus dans la campagne. D'accord. Si c'est possible, à un moment donné.
Vous avez des animaux ?
Deux chats.
Ah oui, donc là, c'est très...
Vous avez alors, j'ai toujours un cheval. Il me reste un cheval alors, de mon élevage de portugais, de chevaux portugais et d'espagnols. Il me reste un de mes étalons. Donc qui est né, qui a maintenant, oui, qui est né en 94, hein,
donc. Oui, donc 24 ans.
Voilà. Il me reste ce cheval et ce cheval, il est en pension chez des amis du côté de Saint-Gaudens. Donc il coule une retraite dans la campagne, dans l'herbe. Donc je m'attache à ce qu'il ait une très bonne retraite. Et là où il est, je sais qu'il a une très très bonne retraite parce que il mérite vraiment. Il a fait plein de poulains. Et puis il a surtout beaucoup d'heures de travail et ça a été mon collègue de travail pendant très longtemps et ça a été le reproducteur de mon élevage et donc il mérite une bonne retraite.
Avez-vous réussi à dompter vos deux chats ?
Et ça dépend.
Parce que là, c'est quand même mission impossible, ça.
Alors oui, j'ai réussi à faire certaines choses quand même. Par exemple, moi j'ai des chats qui ne volent pas. Donc ça, c'est quand même... les gens, quand ils viennent chez nous, sont quand même impressionnés parce qu'on a des chats qui ne volent pas. Donc on peut mettre à manger sur la table, ils ne touchent rien. Et ça, c'est très rare chez les chats.
Ah oui, effectivement. Ça, c'est très rare. Oui, effectivement. Vous avez envie de quoi pour demain, Stéphanie ?
De chanter,
oui,
beaucoup.
Oui.
De que mon association prenne un autre envol, puisqu'elle est toute jeune. Hein. On a démarré en septembre dernier, donc on est des bébés encore. Mais là, je suis en train de déposer mes demandes pour avoir la licence spectacle, production de spectacle. Et puis, ben, pourquoi pas être aussi un tremplin. Moi, j'aimerais que cette association soit un tremplin pour des jeunes artistes. Et puis, on a déjà, Ozani a déjà un de ses élèves qui a été demi-finaliste dans The Voice Kids.
Oui.
Romain Sanchez, et qui là a sorti un album et il a écrit et composé ses chansons. Donc il a 15 ans. Hein,
et vous-même, vous écrivez ?
Alors moi, j'écris beaucoup.
Oui. Vous chantez ce que vous écrivez ?
Pour l'instant, non, en fait. Je les ai pas, j'ai pas mis mes textes en musique, mais il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui me dit que peut-être ça sera possible. Nous avons depuis peu un parrain à notre association qui est Sylvain Casalbou, et donc qui est auteur, lui aussi compositeur. Il chante bien. Et alors il sera présent le 9 juin à l'église.
Vous êtes nombreux ce jour-là à chanter ?
À chanter, on est 14 ou 15.
Tous en même temps ?
Alors, pas tous en même temps. Hein. On chante chacun nos chansons. C'est pas de la chorale qu'on fait. Hein. C'est...
À vous passer en solo.
Voilà, on chante des standards. Ça va être des standards français, américains. On a une chanson en italien, une chanson en espagnol aussi. Voilà, donc c'est vraiment des standards qu'on chante avec des chœurs. C'est plus en gospel.
D'accord.
Voilà. Et donc, Sylvain sera présent le 9 juin. Et le 3 novembre, on fera sa présentation officielle à la salle des fêtes de Lavernose. Et là, il viendra avec tous ses musiciens. Et donc, je pense que lui et nous, on va faire un petit bout de chemin ensemble qui peut être très productif, je pense.
Écoutez, je vous souhaite plein de choses, Stéphanie. D'abord pour cette soirée du 9 juin. Et on peut rappeler une dernière fois, donc c'est à 20h45.
19h45,
autant pour moi. Et plein de belles choses donc, pour cette jolie soirée à venir. Et puis pour vous, Stéphanie, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Va le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant. Ainsi va la vie comme un invité mystère.